J'aime beaucoup ce que tu fais, mais... Ah, ce mais. Ce mais, il est toujours suspect. L'entendre me fait tout de suite imaginer que le bal des critiques est ouvert et que je vais me faire descendre en flèche. Je vous trouve fantastique, mais... Serait-ce ce que Paul dit aussi aux Corinthiens, au premier chapitre de la première épître qu'il leur adresse. On pourrait le penser. Mais je vous propose de regarder attentivement ce texte qui se trouve donc dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, à partir du verset 4 et jusqu'au verset 9. C'est le texte que nous allons étudier ce matin, 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 4 au verset 9. Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà pour notre passage. Nous avons commencé ensemble une série de prédications sur cette épître. Et dans une précédente prédication, nous avions lu les trois premiers versets, la salutation de Paul qui ouvre l'épître. Nous avions dit que Paul, qui a fondé cette église de Corinthe, écrivait parce qu'il était inquiet par rapport à cette église. Il était inquiet parce que la division s'installait et qu'il y régnait un esprit de parti. Des camps étaient apparus et chacun se positionnait dans un camp ou dans l'autre. Paul profitait de cette salutation qui est habituelle quand on écrit à quelqu'un, on commence par le saluer. Et il profitait de cette salutation pour élargir la vision des Corinthiens. Plutôt que de rester le nez collé sur leurs problèmes, il leur ouvrait la vision, il leur rappelait qu'ils étaient saints par appel. Saints, c'est mis à part, ils ne s'appartiennent plus, mais appartiennent à Dieu. Ils ne se sont pas choisis eux-mêmes, mais c'est Dieu qui les a rassemblés. Et Dieu les a appelés à se soumettre à lui. Et Paul terminait sa salutation en appelant sur eux ce qui est le plus précieux, la paix et la grâce. Le texte que nous venons de lire, les versets 4 à 9, c'est toujours l'ouverture, l'introduction de la lettre avant d'entrer dans le vif du sujet. Le passage que nous avons lu n'est pas facile à comprendre quand on le lit comme ça en continu. J'aurais envie de dire, c'est du Paul. Ce sont des phrases longues où chaque mot est pesé, chaque mot a son importance. Dans l'original, dans la Bible en grec que j'ai regardé, on a une seule phrase qui va du verset 4 au verset 8. C'est un peu long, c'est un peu indigeste. Les traducteurs essayent de découper en phrases plus courtes pour permettre à nous qui avons l'habitude de phrases courtes de mieux comprendre. Et d'une version à l'autre, les phrases sont parfois découpées différemment. Alors ça fait quelques effets bizarres quand on essaye de suivre la lecture dans sa Bible alors que celui qui lit a une autre version. Mais généralement, enfin, non, pas généralement, le sens est conservé, c'est juste le découpage qui change. Mais ça perd le lecteur. Que dit Paul dans ce passage. Il rend grâce. Il remercie au sujet des Corinthiens. Nous l'avons rappelé en introduction, l'église de Corinthe est une source d'inquiétude pour Paul, et même une source de déception. Elle est en proie à des divisions, et pourtant, Paul commence par remercier, par se réjouir pour cette église. Alors, toujours une question de style, ces remerciements sont habituels dans les lettres de Paul. On les trouve dans presque toutes les lettres qu'on a dans le Nouveau Testament. Et dans le monde gréco-romain, il est habituel de commencer à s'adresser, quand on s'adresse à quelqu'un, de commencer par des louanges qu'on lui fait. C'est un moyen de s'accorder les bonnes grâces de ses destinataires avant de passer au réel propos pour lequel on s'adresse à lui. Mais les remerciements de Paul ne sont pas juste une figure de style. Ce sont de vrais remerciements. Et on va essayer de comprendre pourquoi il se réjouit. Tout d'abord, qui Paul remercie-t-il? Le verset 4 indique « Je rends grâce à mon Dieu ». Et je note le pronom « mon Dieu ». Il montre que ce n'est pas juste « je rends grâce à Dieu », c'est le mien. Et par ce pronom, j'ai l'impression que c'est un remerciement personnel. Ce n'est pas juste technique, je remercie Dieu parce que vous êtes là. Non, je remercie mon Dieu. Dans la relation que j'ai avec mon Dieu, j'ai un sujet de réjouissance à votre sujet. Paul est personnellement heureux que Dieu ait béni ses chrétiens. Il est heureux parce qu'il les a à cœur, parce qu'il s'est investi pour eux. Il a fondé cette église, il les a enseignés, il a prié pour eux, et aujourd'hui, cette église est toujours là. Même si elle connaît des problèmes, même si ces problèmes sont suffisamment sérieux pour nécessiter une lettre, et une lettre assez conséquente, il est heureux de voir ce fruit grandir et s'établir dans la ville de Corinthe. Alors, il est heureux, mais pour quelle raison? Pour quelle raison remercie-t-il Dieu? Il le remercie pour la grâce accordée en Jésus-Christ. La grâce. Je le disais, la grâce, il en a déjà parlé dans la salutation. C'est ce qu'il a appelé sur ses destinataires, la paix et la grâce. La grâce, c'est un résumé de l'évangile. C'est le rappel de la condamnation enlevée sans mérite de la part du bénéficiaire, par choix de Dieu, Dieu qui choisit ce qu'il sauve. Paul s'est investi pour cette église. Il y a prêché, il l'a fondée, il les a portés dans la prière, mais il sait que c'est Dieu qui sauve, que ce ne sont pas les efforts que lui, Paul, a produits qui ont fait cela. Et il le sait par expérience, il a prêché partout où il est passé. Et il a certainement prié pour tous les contacts qu'il a eus. Et il a vu que les fruits ne poussent pas forcément. C'est Dieu qui choisit là où il les fait pousser. Aussi, il se réjouit et il le bénit de les faire pousser là, dans cette ville de Corinthe. Il note, il souligne que cette grâce s'est profondément ancrée dans l'église de Corinthe. Elle y a pris racine. Elle s'y est infiltrée. Elle y est attachée maintenant. Et c'est ce qu'il dit au verset 6. Le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Ce passage n'est pas le plus clair. D'autres traductions le rendent peut-être de façon plus compréhensible. La TOP traduit « Le témoignage rendu au Christ s'est affermi en vous. » La Bible en français courant, c'est « Le témoignage rendu en Christ a été fermement établi parmi vous. » Le témoignage du Christ, ou le témoignage rendu au Christ, c'est l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, eh bien, elle est connue de toute l'Église. Elle est connue de tous dans l'Église. Si bien qu'aujourd'hui, Paul dit qu'ils sont riches. Riches de toute parole et de toute connaissance. La parole, eh bien, c'est le message annoncé, le message de vérité, les enseignements de Jésus-Christ. La connaissance, c'est comprendre cette parole. Ce n'est pas tout de la voir, il faut aussi la comprendre. En effet, certains enseignements sont plus compliqués que d'autres et ils nécessitent d'être expliqués par des enseignants qui vont nous éclairer sur ce qui est plus difficile à saisir. Et les Corinthiens, eh bien, ils avaient les deux, la parole et la connaissance. Et c'est là une vraie richesse. Je repense très souvent aux paroles de ce chant qui illustre cette richesse. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Connaître Jésus est la plus grande richesse que l'on peut avoir. Et voilà pourquoi Paul remercie Dieu au sujet des Corinthiens. Il est heureux de voir que cette Église est aujourd'hui un bastion solide de la bonne nouvelle. Un lieu où la parole de l'Évangile est connue. Un lieu où cet Évangile est compris. Un endroit où l'Évangile a fait une percée dans ce monde de ténèbres. C'est un sujet de joie pour Paul, qui s'est toujours investi pour que l'Évangile se répande. Mais ça va même plus loin. Il va plus loin dans les sujets de remerciement. Plus loin parce que la grâce, elle se manifeste tous les jours et de manière concrète. Au verset 7, on lit « Il ne vous manque aucun don de la grâce. » Aucun don. Le mot « don », c'est un mot que Paul affectionne particulièrement. Je lisais dans un commentaire que quand ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est presque toujours par Paul dans ses lettres. Et quand Paul utilise ce mot, le plus souvent, c'est pour parler des dons de service, des capacités que Dieu donne aux fidèles pour contribuer à la construction de l'Église. C'est ce qu'il écrit dans une autre lettre aux Romains. Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Voilà ce que Paul écrit aux Romains. Pour s'ancrer, pour grandir, une Église a besoin de chrétiens qui passent à l'action, des prophètes prédicateurs, des serviteurs qui voient les tâches pratiques et les exécutent, d'enseignants, de personnes encourageant les autres, de donateurs, de dirigeants, d'aide pour les démunis. Et la liste n'est pas exhaustive, car avec Paul, ces listes de dons changent d'une lettre à l'autre. C'est qu'il y a toutes sortes de dons, toutes sortes de façons de servir pour établir l'Église. En tout cas, les Corinthiens ont parmi eux tout ce qu'il faut. Ils ont de quoi tenir jusqu'au retour du Christ. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 7. Il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, c'est son retour, le jour où nous aurons tout pleinement en lui. Paul inscrit ainsi sa reconnaissance dans le temps. Si Paul est inquiet concernant l'église de Corinthe, les Corinthiens le sont aussi certainement. Au milieu de leur division, ils doivent être inquiets. Ils doivent se demander s'ils vont tenir. Paul les rassure. Non seulement vous avez tous les dons, mais en plus, c'est Jésus-Christ qui vous affermira jusqu'à la fin. Dieu continuera à les équiper. Il continuera à leur donner les dons dont ils ont besoin. Il continuera à leur donner ces dons à une condition, qu'ils restent accrochés à lui. Que la grâce reste ancrée chez eux. Que la parole et la connaissance restent leur richesse. S'ils restent dans cette direction, ils n'ont pas de souci à se faire. Ils auront tout ce dont ils ont besoin. Et Paul l'accrédite par l'affirmation du verset 9. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc en résumé, que dit Paul ? Paul est sincèrement heureux de voir que Dieu a honoré le travail qu'il a fait à Corinthe. La semence a pris, et aujourd'hui, il y a une église qui vit sur la richesse de la parole et de la connaissance. Et c'est un vrai sujet de réjouissance. En même temps, Paul veut ouvrir les yeux des Corinthiens sur ce que Dieu leur a donné. Non seulement sa grâce, mais aussi tous les dons qui leur sont utiles au quotidien. Mais quand même, je me pose la question, pourquoi Paul leur écrit cela ? Pourquoi, alors que cette église est source de soucis, pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas directement dans le sujet pour leur dire directement ce qu'il a à leur dire, pour remettre les points sur les i ? Je crois qu'il veut, avant tout, que les Corinthiens prennent conscience, de ce qu'ils ont. Ça fait partie de l'enseignement de Paul. Dieu leur a donné tous les dons. Il faudrait qu'ils le reconnaissent. Il faudrait qu'ils se mettent au travail pour bien les utiliser. À propos de ce passage, Robert Somerville écrit « Si l'Église de Corinthe connaît des problèmes, ce n'est pas parce que Dieu s'est montré parcimonieux avec ses dons, mais parce que les Corinthiens en font un mauvais usage. » Les dons sont là. Tous les dons nécessaires pour avoir une église qui vit suivant l'appel du Seigneur sont là. Il n'y a qu'à les utiliser. Et Paul veut les interpeller. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Au lieu de vous disputer, utilisez ce que Dieu vous a donné. Et il va leur dire, dans la suite de la lettre, il va leur dire comment il faut les utiliser. Nous les examinerons, Dieu voulant, dans de prochaines prédications. Il ne va pas manquer de remettre les pendules à l'heure, leur dire ce qui ne va pas. Mais pour l'heure, il s'agit d'ouvrir les yeux et de se montrer heureux. Il faut bien noter la différence qu'il y a entre être heureux et être satisfait. Paul connaît la faiblesse de cette église, ses problèmes de division. Et il n'est pas satisfait de voir cette église ainsi. Il attend mieux d'elle. Mais il est heureux du chemin parcouru, de l'avoir établi dans cette ville. Paul, fondateur de cette église, en est un peu le père. Et il réagit comme tel, comme un père qui se réjouit de voir son enfant se mettre debout et faire ses premiers pas. Le père n'est pas satisfait par cela. L'enfant titube encore, et son père attend qu'il marche parfaitement. Mais quand même, ses premiers pas, c'est un vrai sujet de reconnaissance. Là, même si l'église de Corinthe tarde un peu dans sa progression, Paul se réjouit. et il veut que les Corinthiens en fassent autant, en constatant ce qu'ils ont, en particulier que le Seigneur, dans sa grâce, leur a donné tout ce qu'il faut. Et vous savez, je crois que le cas des Corinthiens n'est pas un cas particulier. Je crois que le Seigneur équipe toujours son Église selon ce dont elle a besoin. Et je crois qu'à nous aussi, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et je dirais même que c'est bon d'entendre cela de notre situation aujourd'hui. En effet, si vous êtes dans l'Église depuis un petit moment, vous savez que nous sommes dans une période pas forcément facile. Nous avons vu partir un grand nombre de personnes particulièrement actives parmi nous. En l'espace de quelques mois, nous avons vu déménager vers d'autres villes pour des mutations professionnelles notre trésorier, les deux responsables du groupe de jeunes adultes, notre pasteur. Alors, concernant le pasteur, j'ai pris la suite de Samuel dans le ministère pastoral, mais j'étais là dans cette église, ça fait toujours un responsable de moins. Et puis, ce n'est pas fini. Avec le départ de la famille Randall, nous allons avoir un prédicateur important et une responsable d'école du dimanche qui partent. Et en septembre, c'est John et Sarah, missionnaires au sud, qui rentreront aux États-Unis. Il y a de quoi nous poser des questions. Pourrons-nous tenir? Pourrons-nous continuer sans ces personnes qui avaient un rôle central dans notre Église? Dieu enverra-t-il des personnes pour les remplacer? Trouverons-nous en notre sein suffisamment de monde pour s'engager? Je crois que nous pouvons être confiants. Dieu pourvoira à nos besoins. Et pour attester ceci, je peux non seulement dire, comme l'apôtre Paul, que Dieu est digne de confiance, mais je veux aussi me souvenir que par le passé, le Seigneur a toujours pourvu aux besoins de cette Église. Elle a toujours eu ce qu'il lui fallait. Rendez-vous compte. Cette Église a débuté avec deux familles. Et voyez ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a connu bien des départs de pasteurs aimés, des départs d'enseignants, des départs de membres du conseil, de personnes clés pour son fonctionnement. Mais elle est là, toujours debout, elle se tient toujours, rugue mère, riche de la parole et de la connaissance de l'Évangile. Et ceci, c'est parce que le Seigneur a toujours pourvu. Et ce que vous voyez aujourd'hui pour s'en occuper, c'est Dieu qui les a occupés, qui les a équipés pour cela. Je vais poursuivre la séquence nostalgie avec un souvenir d'anciens combattants. Durant un temps, cette église s'est retrouvée sans pasteur. Et pour la prédication, dimanche après dimanche, nous faisions souvent appel à des prédicateurs d'autres églises. Et un dimanche matin, le pasteur d'une église à Bourges devait venir parmi nous pour prêcher. Et ce matin-là, peu de temps avant le culte, le téléphone sonne. C'était Bourges. Le prédicateur est malade et il ne pourra pas venir. Ce dimanche-là, nous avons commencé le culte sans prédicateur, ne sachant pas si quelqu'un prêcherait. Nous avons commencé notre temps de louange et nous n'avions pas fini le premier chant que deux personnes dans l'assistance, deux prédicateurs, s'étaient portés volontaires pour apporter une prédication. Dieu nous a toujours équipés et il continuera à le faire. J'aimerais cependant corriger une compréhension que nous pourrions avoir et qui ne serait pas bonne. Ce n'est pas par des flots de chrétiens compétents venant des villes voisines qu'il va nous équiper. Car ce n'est pas par des personnes que Dieu équipe son Église, c'est par des dons. Alors, on peut discuter, on peut dire que les dons sont toujours portés par des personnes et que Dieu peut tout à fait nous envoyer des personnes au fur et à mesure que nous avons des besoins pour y pourvoir. Et certainement, il continuera de nous envoyer d'autres personnes arrivant à Clermont-Ferrand et se joignant à nous dans la joie. Il l'a déjà fait. Et nous avons, depuis quelque temps, plusieurs sœurs et frères qui nous ont rejoints et qui n'attendent pas pour mettre la main à la pâte, pour se joindre à la construction de cette Église. Mais surtout, il va utiliser ceux qui sont là aujourd'hui, c'est-à-dire vous, nous tous. Il va répandre sur vous ses dons pour répondre aux besoins de notre Église. Il va peut-être vous donner des dons, des capacités que vous ne soupçonnez pas. Certains ont peut-être déjà ces capacités, et elles ne sont pas utilisées. Qu'ils s'ouvrent à la possibilité de service, qui répondent aux sollicitations de l'Église. Et je suis convaincu que pour d'autres, eh bien Dieu va donner ses dons et que des choses que nous n'imaginons pas vont se produire. Notre responsabilité est la même que celle des Corinthiens. Faire bon usage des dons que Dieu nous donne pour le bien de notre Église. Dieu nous comble, nous aussi, de ses dons. À nous de les mettre en œuvre pour mener à bien nos projets et faire que cette Église s'affermisse en lui. Ainsi, elle rayonnera autour d'elle, elle fera rayonner autour d'elle la richesse de la parole pour la gloire de Jésus-Christ. Que pouvons-nous retenir au moment de conclure ? Que pouvons-nous retenir de l'introduction à cet épître et de cette formule de remerciement ? Aux Corinthiens, empêtrés dans leurs problèmes de division, qui ne savent pas comment s'en sortir, Paul les amène à regarder ailleurs, à lever les yeux vers Dieu, à regarder à l'essentiel, la grâce de son salut et la richesse qu'ils ont dans l'Évangile. Cette grâce, elle se manifeste par les dons des croyants, parce que Dieu équipe cette Église. Elle ne manque de rien, mais elle a tout ce qu'il lui faut pour sa croissance et son établissement dans cette ville de Corinthe. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que les Corinthiens. Nous ne faisons pas comme eux face à une division grave et à un esprit de clan. Mais je crois que cette attitude de reconnaissance est utile en tout temps dans la vie d'une Église. Et tout particulièrement pour nous qui sommes aujourd'hui dans une période peu évidente de renouvellement. Comme les Corinthiens, restons attachés par la parole et à la connaissance qui est notre vraie richesse. Reconnaissons qu'il nous équipe de sorte que nous ne manquons de rien. Et souvenons-nous du verset 9. Dieu est digne de confiance, lui par qui nous avons été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.